7 milliards de voisins. Avec Emmanuel Bastide, pour les voisins et les voisines.
Bonjour, bienvenue 7 milliards de voisins et de voisines. Aujourd'hui, nous parlons de vous et de vos enfants à l'occasion de la réunion mondiale sur l'éducation à l'UNESCO. Quels investissements pour la reprise et le futur de l'éducation après la pandémie, alors qu'un pays sur trois dans le monde ne prend aucune mesure pour aider les élèves à rattraper leur retard d'apprentissage. Selon l'UNICEF, les écoliers du monde ont perdu près de 1800 milliards d'heures d'enseignement en présentiel depuis le début de la crise sanitaire à cause des fermetures d'écoles. Sur le continent africain, on manque aussi d'enseignants. Il en faudra 15 millions d'ici 2030, mais aussi de salles de classe. En témoigne le dramatique incendie au Niger cette semaine, dans une école paillote de la région de Maradi. Alors quelles sont les actions prioritaires pour l'éducation de demain ? Le numérique est-il un espoir ou un mirage pour améliorer la qualité de l'apprentissage et faire face aussi à la démographie scolaire du continent ? Nous allons en discuter. Nous devrions avoir au téléphone, je l'espère, la ministre de l'Éducation nationale et de l'Alphabétisation en Côte d'Ivoire, qui est à l'heure actuelle à l'UNESCO, Mariatou Koné. Et puis dans le studio, Boren Chakroun, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directeur de la division des politiques et systèmes d'apprentissage tout au long de la vie à l'UNESCO. Également avec nous, Gaël Le Dréau, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes délégué à l'international du réseau Canopé, un réseau français qui propose des programmes d'éducation en ligne, notamment le programme Imagine École, qui va démarrer très concrètement sur le continent africain. On sera également en ligne au Tchad avec un enseignant de mathématiques, Kodessa Domenga, qui est au lycée Félix Eboué de N'Djamena et qui participe à la mise en ligne de contenus mathématiques pour le programme Imagine École. Et bien sûr, vous pouvez nous interpeller, poser toutes vos questions au 33 7 64 45 51 41 pour le futur de l'éducation dans votre pays.
7 milliards de voisins, nous avons maintenant une lucarne. Voisins, voisines, on est ensemble. Et puis on va se parler, on va se dire la vérité.
Alors évidemment, vous êtes très nombreux à réagir à l'actualité, à l'incendie de cette école paillote dans la région de Maradi au Niger, qui a tué plus de 26 enfants très jeunes, hein, entre 5 et 6 ans. Khadija, qui a 18 ans, est à Touba au Sénégal. Elle dit « Moi, j'ai commencé l'école dans un abri provisoire. Je trouve incroyable qu'aujourd'hui, au 21e siècle, il y ait encore des écoles en paillote. Mais ce qui est incroyable, c'est aussi que Khadija nous écrive qu'elle ait fait des études supérieures alors qu'elle a commencé sa scolarité dans les écoles paillote. Donc, on voit aussi leur utilité. Bahine Djamena au Tchad nous dit « Il y a un manque de volonté du côté des autorités africaines d'une manière générale vis-à-vis de l'école. Sinon, pourquoi ne pas faire un petit effort pour construire ne serait-ce que des bâtiments en argile ?» Effectivement, bonne question. Bourame, à Bamako, Mali, je crois que ça va être une bonne leçon pour le gouvernement nigérien, mais à quel prix ? Diaby est à Bamako aussi. C'est inadmissible de voir aujourd'hui des écoles en paillote. Toute l'Afrique devrait lutter contre ce phénomène. Il faut moins d'élèves dans les classes, entre 30 et 40 élèves maximum. On en est très loin. Jean, à Accra, au Ghana, c'est la pauvreté qui engendre tout ça, surtout en Afrique francophone où les chefs d'État gouvernent pour eux-mêmes. Ça ne changera pas tant qu'il n'y aura pas de vision éclairée de la politique éducative. Révoltée je suis d'entendre ce genre de drame dû à la négligence humaine. Voilà, vous êtes très très nombreux à réagir à ce drame. Ces écoles paillotes qui sont évidemment à l'image de tout le manque d'infrastructures scolaires sur le continent africain. Vous pouvez bien sûr continuer à nous téléphoner au 33 7 64 45 51 41.
7 milliards de voisins.
Ouais. 7 milliards de voisins.
Tout le monde est voisin.
Boren Chakroun de l'UNESCO, comment vous réagissez au message que je viens de lire de nos auditeurs ?
Tout d'abord, je voudrais exprimer mes sincères condoléances aux familles. Nous sommes touchés par cet événement et nous sommes touchés parce que nous sommes aussi responsables au niveau international de l'action pour l'éducation. Et l'objectif de développement 4 est un objectif universel qui vise à donner à tout un chacun l'opportunité d'apprendre et de continuer son apprentissage dans une perspective d'apprentissage tout au long de la vie. Mais je pense que le problème d'infrastructure est un problème structurel. Il n'est pas nouveau.
Non.
Et le manque d'investissement dans l'éducation est un problème structurel. Il est aggravé par la crise du Covid, mais il n'est pas nouveau. Même avant le Covid, nous avions un manque d'environ 148 milliards de dollars d'investissement pour atteindre l'objectif de développement durable 4. Et la crise Covid augmente ce déficit à environ 200 milliards. Donc l'investissement dans l'éducation est un problème majeur, est un problème structurel. Mais l'infrastructure n'est pas uniquement le seul problème. Il faut investir dans les enseignants, il faut investir dans les ressources éducatives, il faut investir dans l'environnement pédagogique. Et donc il faut agir d'une manière plus cohérente dans ce contexte-là. Ouais.
Vous le disiez, la crise Covid n'a rien arrangé et surtout plombe encore plus le problème structurel finalement de démographie scolaire. Hein. On aura beau construire des salles de classe, ça ne va jamais assez vite par rapport à la natalité sur le continent africain. Avant l'apparition du Covid-19, on estimait que 53% des enfants des pays à revenus faibles ou intermédiaires, donc beaucoup de pays africains, étaient incapables de lire et de comprendre un texte simple à l'âge de 10 ans. Ce pourcentage passe à 87% en Afrique subsaharienne. Et aujourd'hui, on s'attend à ce que on ait 10% supplémentaires, hein, donc 97% d'enfants qui pourraient être en difficulté à l'âge de 10 ans pour lire et comprendre un texte simple. On a 60 millions d'enfants en âge de fréquenter l'école primaire qui ne sont pas scolarisés, 1 sur 5 dans beaucoup de pays africains. Ça veut dire qu'on commence par quoi ?
Bah, tout d'abord, dans le court terme, il faut réagir par rapport à la crise Covid, et notamment la perte d'apprentissage. Il faut organiser des programmes de remédiation. Il faut se préparer pour les crises, parce que la crise, elle n'est pas finie tout d'abord, mais également, on s'attend à d'autres crises, des crises climatiques, des crises de conflits. Donc, il faut agir à court terme, tout d'abord, pour rattraper le tir par rapport aux pertes d'apprentissage, préparer les enseignants. Mais ça ne résout pas les problèmes structurels qu'on a mentionnés tout à l'heure, qui sont des problèmes de politique éducative et d'investissement et de priorité accordée à l'éducation dans le budget national. Aujourd'hui, d'après nos statistiques, il y a 70% des pays qui ne financent pas assez l'éducation, donc ils ne sont pas en train d'atteindre les cibles que nous avons définies au niveau international, qui sont soit de 4 à 6% du PIB ou de 15 à 20% des dépenses publiques. 70% pardon, des pays ne
sont en dessous des 20%
de ces cibles que nous avons définies.
Ça veut dire que bon nombre de pays dépensent moins de 20% du budget de l'État pour l'école. Et donc, le système éducatif ne peut absolument pas fonctionner dans ces conditions-là, financièrement parlant. Vous l'avez dit, il ne suffit pas de construire des classes en dur. Certes, on éviterait le drame des classes paillotes, mais il faut des enseignants à l'intérieur, il faut des manuels, il faut des contenus pédagogiques, hein, pour travailler, pour que les élèves apprennent. Et c'est là qu'on peut se poser des questions sur l'utilité du numérique. Gaëlle Le Dréau, vous êtes présidente déléguée à l'international du réseau Canopée. On a vu, à la faveur ou grâce, ou finalement, je ne sais pas si c'était une bonne chose ou pas, mais en tout cas, avec la pandémie, on a vu émerger, on va dire, de l'improvisation, du bricolage, dans tous les pays, y compris d'ailleurs les pays riches, grâce au numérique. Qu'est-ce que ça, en quoi ça a nourri la réflexion pour le numérique de l'école en Afrique ?
Oui, alors effectivement, ça a été une période tout à fait particulière et très active en termes de créativité, de recherche de solutions, avec la brutalité de la situation sanitaire qui a fait que du jour au lendemain, les élèves se sont retrouvés à la maison partout à travers le monde. Et on l'a vécu en France, hein, donc au premier titre. Et ça, là, c'est là où nous, à Réseau Canopée, en tant qu'opérateur public, on a joué un premier rôle de se mettre au service des enseignants dans un premier temps. Parce qu'effectivement, cette nécessité d'accompagner les enseignants, d'être à leur côté, ça nous est apparu d'être le problème le plus prégnant dans un premier temps. Maintenant, quand il s'agit de ce qui s'est passé sur le continent africain, très rapidement, effectivement, en partenariat avec l'UNESCO, on a monté ce dispositif Imagine École. Et l'idée, c'était de se dire: un, il faut effectivement tout le temps ce vecteur de l'enseignant, et deux, la ressource pédagogique de qualité, qui sont effectivement les clés pour nous de réussite des actions qu'on met en place. Donc très très vite et en même temps la nécessité d'avoir des ressources adaptées et qui correspondent aux programmes locaux, qui vont être appropriés par les enseignants, par les systèmes éducatifs locaux, qui correspondent effectivement à des habitudes d'enseignement, à des priorités éducatives. Donc ça fait quelque chose de très complexe. La force du numérique, c'est la capacité qu'on a à s'approprier les contenus, à les retravailler, à les remodeler et à les adapter. Et c'est vraiment sur ce modèle-là qu'on a travaillé dans Imagine École, qu'on est en train de travailler et aussi de se dire on n'apporte pas directement des contenus, mais on accompagne les équipes localement pour produire, pour sélectionner, choisir, rééditorialiser, je vais dire, des contenus afin qu'ils correspondent à des besoins spécifiques localement.
Mais pour revenir à la réalité, sur le continent africain, on a 8 élèves sur 10 qui n'ont pas accès à Internet.
Tout à fait.
Boran Chakroun.
Tout à fait. Et au niveau international, nous avons environ 500 millions de jeunes qui n'ont pas accès ni à Internet ni à un ordinateur. Et d'où la réalité, c'est qu'il faut tout d'abord avoir une approche de stratégie technologique mixte, et c'est ce qui se fait dans les pays, utiliser la radio, utiliser la télé, utiliser le numérique, et utiliser parfois même l'impression de manuel pour les distribuer. Ceci dit, il faut développer les capacités pour prendre le tournant du numérique. Parce que l'investissement dans l'Internet se fait. Il y a un accès également à travers le mobile, donc les téléphones, et ça peut permettre d'accéder à des ressources éducatives, ça peut permettre d'accéder à une certaine offre d'éducation et de formation. Mais je pense que le point le plus important, c'est que le numérique est là et va rester là pour longtemps. Pour les enseignants, la question n'est pas uniquement d'accéder à une plateforme, mais c'est aussi d'utiliser les ressources dans leur enseignement, dans l'enseignement qu'ils dispensent dans la classe.
Ça veut dire, quand on a de l'électricité, quand on a de l'Internet, l'enseignant va chercher des exercices, va chercher des leçons qu'il pourrait imprimer ou télécharger dans son téléphone portable et les utiliser pour faire cours ensuite dans sa classe.
Dans sa classe, absolument.
Au moment où il n'a plus d'Internet.
Absolument. Hein.
Concrètement,
hors ligne,
c'est ça.
La technologie le permet, utiliser du hors ligne, utiliser de la technologie mixte. Donc, c'est là où, je pense, le présent et le futur va se placer.
Ouais. Alors, cette plateforme Imagine École, c'est vraiment une plateforme qui permet à chaque pays d'adapter les contenus scolaires en fonction de son système éducatif.
Oui, c'est ça. En fait, l'idée, c'est une, pour prendre une image, c'est un petit peu une galaxie de plateformes.
Ouais.
On a une plateforme régionale, imagineécole.africa, sur laquelle on va avoir effectivement des contenus qu'on va nommer granulaires, c'est-à-dire une petite vidéo, une image, un texte. Et ces contenus-là, les autres pays vont pouvoir effectivement les agréger à leur propre plateforme pays. Et au niveau de chaque pays, il y a donc une équipe projet qui est constituée d'experts du ministère, de chaque ministère, qui vont effectivement sélectionner les contenus disponibles dans la plateforme régionale, qui est en sorte un gros réservoir, et qui vont les réindexer en fonction de leur programme d'enseignement. Et qui vont éventuellement aussi créer des scénarios pédagogiques. Donc des scénarios pédagogiques, c'est des activités autour d'une vidéo, autour d'une image qui permettent de mettre en action l'élève quand il va utiliser la ressource. Donc effectivement, c'est cette démarche-là et à chaque fois, on a aussi une indexation, une description par rapport aux programmes locaux qui fait que la ressource va devenir effectivement, chaque pays se l'approprie.
Oui.
et la façonne.
Pour ça, il faut aussi, il faut évidemment fabriquer ces contenu pédagogique, il faut former des formateurs, il faut former des enseignants pour utiliser la plateforme.
Exactement. C'est ça l'enjeu. L'enjeu, je pense que c'est au-delà de la réponse d'urgence effectivement qui est apportée, qui est de dire on apporte massivement des contenus, en tout cas aussi rapidement que possible. Ensuite, la deuxième chose, c'est l'appropriation, la formation, et c'est là où nous on essaye d'être en appui, et je dirais en formation aussi parfois implicite, c'est-à-dire qu'on forme en faisant. C'est-à-dire qu'on va accompagner les équipes locales, les enseignants à scénariser. On va leur donner effectivement des conducteurs de scénarios pédagogiques. Et ces choses-là vont effectivement permettre de réfléchir à la pratique d'enseignement différemment. C'est-à-dire que autant on peut... le numérique, effectivement, ce n'est pas simplement le fait d'utiliser plein de fonctionnalités exotiques ou nouvelles, etc. à chaque fois. C'est se questionner par rapport à sa pratique d'enseignement dans un environnement où, effectivement, on nous parle beaucoup de nouvelles compétences à acquérir. Ces compétences, c'est de la créativité, c'est du partage. Et effectivement, c'est à travers cet outillage qu'on essaye de travailler ces nouvelles compétences également.
Alors, justement, on va avoir au téléphone un enseignant de mathématiques au Tchad pour voir comment chaque pays peut s'approprier les contenus de la plateforme. Bonjour, Kodessa Domenga.
Bonjour.
Vous êtes professeur de maths au lycée Félix Eboué de N'Djamena. C'est le plus grand lycée du pays, non, je crois ?
Tout à fait.
Ouais. 12 classes de terminale scientifique, 18 classes de terminale littéraire.
Oui.
Et
15 classes de terminale littéraire et 18 classes de terminale, 12 classes de terminale scientifique.
C'est ça, d'accord. Donc c'est un lycée absolument énorme, hein, à la mesure de la démographie scolaire dans le pays. Vous avez créé des exercices de maths pour les terminales scientifiques.
Exactement. J'ai produit les cours de classe de terminale B, C et E.
Vous êtes en ligne
des
avec
cours
nous
et des exercices. Ouais, je suis en ligne, je vous reçois.
D'accord. Comment vous avez travaillé concrètement, vous, professeur de mathématiques, vous, jusqu'à maintenant, vous n'utilisiez pas tellement le numérique pour faire cours avec vos élèves?
À défaut de connexion Internet, pour avoir accès à la plateforme, jusqu'à présent, nous enseignons en classe, comme d'habitude. Sinon, pour la plateforme, nous avons produit des cours, des contenus, dans des formats que la plateforme Tchad éducative nous a promis. Ce sont des gabarits dont les contenus de cours prennent 20 minutes pour l'élève, qui renferment l'essentiel du cours et des exercices directs qui permettent à l'élève de comprendre rapidement les cours dispensés en classe.
Donc c'est vraiment étudié pour que ça soit efficace pour l'élève, hein, c'est ça?
Oui.
Mais dans votre lycée, qui a accès à la plateforme? Est-ce que ces contenus que vous avez créés pour la plateforme, ça sert directement à vos élèves?
Le lycée Félix Eboué ne fait pas partie des 4 lycées pilotes. Par conséquent, aucun élève de lycée Félix Eboué n'a accès au contenu des cours produits par Tchad éducatif.
Mais alors, vous avez été volontaire pour fabriquer ces contenus de mathématiques.
Exactement. J'ai été appelé par un inspecteur de mathématiques, Monsieur Mairaro Betom, qui est inspecteur au ministère de l'Éducation nationale, qui m'a appelé pour que je puisse joindre l'équipe de production. C'est ainsi qu'on a travaillé pendant un bon temps au niveau d'un cabinet qui est un partenaire, cabinet CETIS, qui est un partenaire technique au ministère de l'Éducation nationale. C'est là qu'on a pu travailler sur le contenu de mathématiques, des cours de mathématiques de la classe terminale S.
D'accord. Mais vous, en tant que professeur de mathématiques, on voit que vous êtes à l'aise hein, avec cette production de contenu Internet, mais plus largement, par rapport à vos collègues, par rapport à la population scolaire, est-ce que vous croyez à cette éducation par le numérique dans un pays comme le Tchad?
Ah oui, bon, éducation, on apprend, on n'est pas né avec. Donc, si on voit que c'est important, l'enseignement par le numérique est important de nos jours, eh bien, il faut chercher à former d'autres enseignants, former aussi les élèves, dans ce cadre-là. Puisque si on ne forme pas, bon, on ne peut pas avoir des gens qui savent. Donc, il faut qu'on forme.
Merci.
Non, la majorité des élèves, des enseignants, voilà, la plupart ne maîtrisent pas beaucoup de ces informations.
Ouais. Donc, la priorité, c'est former les enseignants. Merci, Kodessa Domenga, d'avoir été en ligne avec nous, professeur de maths au lycée Félix Eboué de N'Djamena, le plus grand lycée du pays. Très bonne journée à vous. Boren Chakroun, vous l'avez dit, finalement, il faut commencer, même si l'Internet n'est pas là, l'électricité n'est pas là, demain, elle sera là, et il faut que tout le monde soit prêt. Donc, ça veut dire que le démarrage est forcément chaotique.
Le démarrage est forcément, je dirais, improvisé pour positiver, mais l'expérience des pays montre que on peut bien faire. Et je vais donner quelques exemples. Au Sénégal, il y a eu différentes expériences et le démarrage a été, improvisé. Mais le gouvernement a décidé d'avoir une stratégie du numérique qu'il appelle PROMET et d'agréger, de mutualiser toutes les initiatives pour répondre aux besoins du pays. La Côte d'Ivoire est aussi un autre exemple qui investit dans le numérique, mais en lien avec la réforme éducative, qui a aussi accordé des ressources dans les plans de relance économique pour l'éducation. Ce sont des choix politiques, ce ne sont pas uniquement de l'improvisation et d'une situation, je dirais, de réponse uniquement à une urgence.
Ouais, c'est ça. Et puis, l'Afrique a montré par le passé qu'elle était tout à fait capable de s'approprier de la digitalisation. On le voit avec le succès du paiement des factures au quotidien avec son porte-monnaie numérique. Hein. On voit comment M-Pesa a essaimé dans toute l'Afrique. Donc, l'Afrique est tout à fait capable de s'approprier cette façon de travailler avec du numérique. Si tant est qu'il y ait un petit peu d'accès à Internet, un minimum.
Absolument, c'est aussi un point important, c'est ce que l'initiative Imagine École fait, c'est de créer un écosystème. Ce n'est pas uniquement de former les enseignants, c'est de créer un écosystème où également des entrepreneurs locaux dans la technologie peuvent investir dans l'éducation et dans les ressources éducatives. C'est aussi les entreprises de télécom qui peuvent faciliter l'accès à Internet, réduire les coûts d'accès à Internet.
Et les jeunes sont très demandeurs en plus de travailler là-dessus, non ?
Les jeunes sont évidemment très demandeurs. On a eu des exemples cet été pour réviser justement sur ces retards d'apprentissage dans les 4 lycées pilotes que mentionnait M. Codessa à l'instant, où les jeunes venaient réviser leurs cours de terminale pour le baccalauréat.
An N'Djamena.
Et deux petites remarques, peut-être, si je peux me permettre, concernant effectivement l'accès à Internet. Avec M. Codessa, il y a 10 jours, on était dans la rue en train d'acheter des cartes d'accès aux data pour aller faire une formation, en fait. Et ensuite, la connexion est très bonne. Mais c'est juste un problème, effectivement, de moyens. Si on pouvait avoir des connexions Internet sur les serveurs éducatifs gratuits, par exemple, ce serait formidable. On aurait des accès et des connexions très, très nombreuses.
C'est un message pour les opérateurs, là, peut-être.
Un petit partenariat
public-privé,
tout à
là.
Fait. Hein, avec certains opérateurs, on a, dans le cadre de la Coalition mondiale pour l'éducation que nous avons lancée, nous avons obtenu une réduction, voire même une annulation du coût d'accès à l'éducation. Oui. Avec Orange, avec Vodafone et avec d'autres opérateurs. Donc c'est possible, c'est une négociation, c'est un partenariat, c'est aussi un push politique qu'il faut faire.
Et peut-être une dernière remarque, si je peux me permettre. Je crois également qu'il y a quelque chose qui est essentiel, c'est qu'effectivement, il faut de la connexion, mais en fait, la technique n'est pas... On la contourne toujours. On crée des serveurs locaux dans des écoles, on diffuse du Wi-Fi, c'est gratuit, il n'y a pas besoin de connexion Internet, on se connecte avec n'importe quel téléphone, et ça peut même diffuser du Wi-Fi juste dans les alentours du lycée. On vient se connecter, on a tous les contenus d'enseignement, on peut mettre du contenu de formation pour les enseignants aussi dessus, et ça fonctionne très bien. Le débit est excellent.
Voilà, il y a une façon aussi frugale de penser cette éducation par le numérique. Vous restez tous avec nous et bien sûr, vous pouvez nous appeler parce que j'espère qu'on va avoir la ministre de l'Éducation en Côte d'Ivoire au téléphone. Ça y est, elle est avec nous. Je vous redonne notre numéro de téléphone. Les voisins, les voisines, si vous souhaitez dialoguer avec elle sur les problématiques de l'éducation en Côte d'Ivoire, 33 7 64 45 51 41.
7 milliards de voisins.
Et aujourd'hui, on dit quoi ?
Ça y est, nous sommes en ligne avec la ministre de l'Éducation en Côte d'Ivoire. Bonjour Mariette Oukoné.
Bonjour madame.
Merci d'être en ligne avec nous. Vous êtes à cette réunion internationale à l'UNESCO. Vous êtes ministre de l'Éducation et de l'Alphabétisation en Côte d'Ivoire, députée et maire de Boundiali, dans le nord du pays, à 800 km d'Abidjan. Vous êtes anthropologue de formation. Vous êtes une ministre connectée au terrain, aux réalités des familles en zone rurale. Et j'imagine que vous avez suivi cette triste actualité au Niger, l'incendie d'une école Payotte, au moins 26 enfants morts brûlés vifs, la classe en paille et en bois. C'est vraiment, on en a parlé au début de l'émission, un des maux de l'école en Afrique. C'est aussi un problème en Côte d'Ivoire dès qu'on sort des villes.
Oui, je vous remercie. Je voudrais vraiment... saluer la mémoire de ces enfants arrachés très tôt à l'affection de leurs parents et de leurs proches. qu'il repose en paix. Je voudrais présenter les sincères condoléances du gouvernement de Côte d'Ivoire au peuple ami et frère du Niger. C'est une immense perte pour l'humanité parce que ses enfants constituaient un investissement et une promesse pour l'avenir. La leçon que nous pouvons tirer de ce drame, c'est que cette situation nous ramène à la problématique des infrastructures scolaires. L'insuffisance des salles de classe et d'école, et aussi l'environnement et les normes de sécurité, et également le cadre de travail. Cette situation du Niger existe malheureusement dans plusieurs pays où, face à l'insuffisance d'infrastructures scolaires, les populations elles-mêmes, conscientes de la valeur de l'éducation, investissent dans des matériaux précaires. Mais il est bon de préciser que les crises militaro-politiques qu'ont connues certains pays, dont la Côte d'Ivoire, ont dégradé considérablement les infrastructures.
Oui. Combien de classes, combien de classes paillotes en Côte d'Ivoire, Madame la Ministre? Il y en a 36 000 à peu près au Niger.
Je ne saurais vous le dire, mais je voudrais insister sur le fait que le gouvernement ivoirien a entamé depuis quelques années la construction de plusieurs écoles afin de pallier l'insuffisance et d'améliorer les conditions de travail des apprenants et des enseignants. Nous avons à peu près, pour l'école, les écoles primaires, 18 000 écoles primaires de qualité. Et nous sommes en train de continuer la construction, la réalisation d'infrastructures scolaires au nom de la politique de l'école pour tous et au nom de la scolarisation obligatoire. Et je voudrais vraiment vous dire que la joie, l'intérêt pour la Côte d'Ivoire, c'est le fait qu'avec justement la construction de ces nouvelles, de toutes ces infrastructures scolaires, le taux de scolarisation également a augmenté. Nous en étions même arrivés à 100,2% en 2019. Et bon, malheureusement, avec la crise, la pandémie à coronavirus, ce taux de scolarisation a chuté à 98%. Mais vous voyez l'importance des classes, l'importance des infrastructures scolaires dans un pays.
Oui, mais est-ce que ce rythme de déconstruction est suffisant par rapport au rythme de la croissance de la démographie scolaire, de l'augmentation chaque année énorme du nombre d'élèves?
Je voudrais reconnaître que le rythme, justement, de construction ne va pas avec la démographie galopante. C'est pour ça que tous nous sommes inscrits dans le projet SWED pour l'autonomisation de la femme, pour le dividende démographique. Parce que, tenant compte de cette situation, justement, en Côte d'Ivoire, aujourd'hui, nous avons 30% des enfants qui vont à l'école publique. L'école publique ne peut recevoir que 30% des enfants. Et 70% sont dans les écoles privées.
Ouais. Alors, justement, restez en ligne avec nous, Madame la Ministre. On a des auditeurs qui souhaiteraient vous poser des questions. On a en ligne Vakaba qui est à Abidjan. Bonjour, Vakaba.
Oui, bonjour, Emmanuel Barthé.
Alors, vous souhaitiez réagir d'abord parce que, bon, sur ce drame de l'incendie de l'école Paillotte au Niger, le gouvernement du Niger a décidé d'interdire ses classes pour le préscolaire. Hein. Est-ce que la fermeture de ces classes est une bonne solution? Vous souhaitiez réagir à cette question qui s'est posée pour de nombreux auditeurs, Vakaba?
Exactement, je ne suis pas d'accord avec l'interdiction de ces paillotes. Il faut savoir que dans le contrée reculée, ceux qui arrivent à donner des enseignements, il faut les encourager, il faut les saluer. Il faut les saluer parce qu'ils démontrent réellement leur volonté de donner du savoir à la nation. Donc, annuler ces écoles de paillotes, je présente d'abord mes condoléances les plus sincères aux parents des 26 enfants.
Merci à vous.
Et à toute la nation. C'est dramatique, mais cela ne doit pas nous amener à interdire les paillotes. Il faut apporter des moyens de sécurisation à ces paillotes et donner des moyens à ce que ces paillotes soient transformées en classe dure.
Eh oui, Vakaba, restez en ligne avec nous parce que vous avez une question ensuite précise pour la ministre. Maria Toukoné, vous, est-ce que vous estimez également que ça n'est pas la bonne décision d'interdire ces classes pour le préscolaire? Parce que vous êtes face à la même situation en Côte d'Ivoire pour ces écoles paillotes.
Oui, nous sommes face à la même situation en Côte d'Ivoire, mais je voudrais rectifier quelque chose que j'ai dit tout à l'heure. En réalité, il y a, pour le primaire public, nous avons 80% des élèves dans le public et 20% dans le privé. Et l'État de Côte d'Ivoire est en train de se battre à travers plusieurs programmes, surtout avec le secteur privé, pour essayer de corriger cela afin que nous ayons toutes les écoles, enfin la plupart des enfants, en tout cas dans les écoles publiques.
Oui.
Alors,
ça s'apparente pour ce qui est de l'école privée, ça s'apparente à un vœu pieux parce que la majorité des Ivoiriens ne rêvent que d'une chose, c'est de mettre leurs enfants dans les écoles privées. Il faut quand même être lucide.
Non, la majorité dont vous parlez, je pense que c'est une situation qui est en train de s'améliorer. Avant, c'était cela. Mais sous le président Alassane Ouattara, de plus en plus, avec notre slogan qui est « Une école de qualité et de mérite dans la transparence et dans l'équité », je voudrais vous rassurer que maintenant, les parents sont conscients de l'intérêt, de l'importance et de la qualité de l'école publique. Et donc, la plupart des parents souhaitent intégrer leurs enfants dans les écoles publiques.
Et concernant les écoles paillotes, alors ?
Alors, concernant les écoles paillotes, pour l'instant, je voudrais dire que c'est un besoin, c'est une nécessité face à la volonté d'éducation. C'est un droit, aller à l'école, c'est un droit. L'État est en train de travailler avec le secteur privé à la construction de nouvelles écoles, mais en attendant, que faire de ces enfants qui sont là ? Surtout que la politique d'école pour tous et la politique de scolarisation obligatoire est rentrée dans tous les ménages, dans toutes les familles, dans tous les foyers. Mmh. Donc, en attendant, ces 20% restants, bon, malheureusement, le nombre d'enfants accroît également, mais en attendant, ces 20% d'enfants sont soit dans les écoles privées, soit dans les écoles écoles paillotes ou écoles précaires, et nous en sommes conscients et nous travaillons à l'amélioration, justement, et à la réalisation et à la réhabilitation des infrastructures scolaires en Côte d'Ivoire.
Maria Toukoné, ministre de l'Éducation en Côte d'Ivoire, est-ce que vous avez encore quelques minutes à nous accorder ou c'est votre tour de prendre la parole à l'UNESCO ?
C'est mon tour de prendre la parole à l'UNESCO, je cours.
D'accord, très bien. Allez-y, merci infiniment d'avoir été en ligne avec nous. Vakaba, je suis désolée, on ne pourra pas donc vous redonner la parole pour poser une question à la ministre, à moins qu'elle puisse revenir une fois qu'elle aura pris la parole à l'UNESCO, puisque peut-être, Boren Chakroun, vous allez nous donner un peu les coulisses de ce qui se passe ce matin à l'UNESCO, puisque chaque pays, chaque délégation prend la parole à tour de rôle.
Oui, chaque pays exprime quelles sont sa politique éducative, quelles sont les positions par rapport à l'ODD 4, à l'objectif de développement 4, et je pense que c'est aussi un exercice d'apprentissage par les pairs, puisqu'ils écoutent, les ministres écoutent quelles sont les stratégies des autres pays, ils se positionnent par rapport aux priorités qui sont définies selon les contextes, bien sûr, mais selon aussi les attentes par rapport à l'objectif de développement 4, et donc de ne laisser personne pour compte au niveau de l'éducation.
Alors, vous l'avez entendu, Maria Toukoné l'a dit, la Côte d'Ivoire est un pays qui fait des efforts pour son système éducatif. Il y a eu ces dernières années énormément de classes construites, d'écoles construites, notamment pour que l'accès soit moins éloigné pour des écoles qui sont en zone rurale ou semi-rurale. Néanmoins, on le voit bien, ça ne va jamais assez vite, finalement. Et puis, il manque aussi des enseignants. Il en manque 15 millions pour le primaire et le secondaire, pour tout le continent africain d'ici 2030. Quelle est la solution ? Parce que finalement, cette démographie scolaire, elle a fini par lasser les bailleurs de fonds, qui disaient, mais finalement, on met de l'argent, c'est à fond perdu, on n'obtient jamais de résultats tangibles.
Tout d'abord, moi, je pense que l'expérience internationale nous montre que c'est possible. Il n'y a pas une fatalité. L'expérience de la Corée, l'expérience du Vietnam récemment, montre que quand il y a une volonté politique, qu'il y a des ressources, mais que la question de l'accès, elle est aussi conjuguée avec la question de la qualité et de l'équité. Si les investissements vont dans la capitale et laissent à côté les zones rurales, bien sûr, on continue à se retrouver avec une situation où l'accès à l'école et la qualité de l'éducation restent insuffisantes. Donc je pense que certains pays ont fait de l'éducation une priorité, une cause nationale. Un pays comme le Vietnam a fait un bond extraordinaire en termes d'investissement, en termes d'accès, mais également en termes de qualité. Leur score dans l'enquête PISA montre qu'ils ont fait une amélioration nette en termes d'accès à l'éducation, mais en termes de qualité de l'éducation. Il n'y a pas une solution miracle, mais il y a des principes et des ingrédients qui sont nécessaires. Tout d'abord, il faut qu'il y ait une stratégie nationale, une politique nationale. Une politique nationale qui est axée sur une école d'équité et inclusive, et une école nationale qui répond aussi aux défis de développement du pays. Je pense qu'un pays comme la Côte d'Ivoire est un exemple intéressant. On le voit bien avec l'engagement de la ministre, mais on le voit bien, par exemple, dans leur plan de relance économique, la Côte d'Ivoire a alloué des ressources pour l'éducation dans le plan de relance économique. Au niveau international, malheureusement, quand on regarde, nous, les données, on trouve que les pays, au niveau international, la moyenne est moins que 3% des ressources allouées à l'éducation dans les plans de relance économique. Dans les pays à faible revenu, ça descend à moins que 1%. Donc c'est un choix politique et c'est un choix de décision des priorités.
Comment vous faites pour peser sur ces choix politiques à partir d'une instance internationale comme l'UNESCO?
La journée d'aujourd'hui est un moment crucial. Tout d'abord, nous avons préparé un rapport qui montre quel est l'état des investissements et nous avons les données. Deuxièmement,
vous montrez mécaniquement que quand on investit, on a des résultats.
Ça, c'est un très bon point. L'investissement dans l'éducation, il doit être aussi un investissement équitable et efficient. Certains pays investissent plus dans l'éducation, mais les résultats sont inférieurs. Des pays de l'Afrique du Nord, par exemple. Donc, la question n'est pas uniquement une question d'argent, mais c'est aussi une question d'efficacité, d'efficience et d'équité de l'utilisation de l'argent. Donc, le premier, c'est de montrer les statistiques et où va l'argent et combien est dépensé. Le deuxième, c'est de définir des cibles qui sont appropriées par tous les pays. Et nous avons défini des cibles en 2015 avec l'adoption de l'agenda 2030. Je l'ai dit tout à l'heure, de 4 à 6% du PIB et de 15 à 20% des dépenses publiques. Ce sont des cibles que les pays s'engagent à les respecter.
Mais la Côte d'Ivoire, par exemple, dépense plus de 20% de son budget de l'État dans l'éducation et les Ivoiriens ne sont pas satisfaits, en fait, du résultat. Ont un sentiment diffus de mauvaise qualité de l'école en Côte d'Ivoire.
Tout à fait. Donc, si on reste sur la question de l'investissement, tout d'abord, même ces cibles de 15 à 20%, vu la pression démographique, vu les besoins qui évoluent, ne sont pas nécessairement suffisants. Mais la réalité, c'est que même ces cibles ne sont pas respectées. Le cas de la Côte d'Ivoire est un bon exemple où il y a des investissements. Mais peut-être le troisième point qui est un message clé de politique de la réunion d'aujourd'hui, c'est que c'est une question de réforme fiscale et des revenus de l'État. Si l'État ne génère pas assez de revenus, il n'a pas les moyens de dépenser. La dépense au niveau national est la plus importante dans l'investissement de l'éducation. Ce n'est pas l'aide internationale. L'aide internationale, c'est environ 2% des dépenses dans l'éducation dans les pays à faible revenu.
Et rappelons que l'aide internationale est conditionnée aussi à l'engagement financier des États.
Tout à fait.
En principe, en tout cas.
Tout à fait. Mais c'est le cas. Mais je pense que la question telle que nous la posons aujourd'hui, telle que le rapport que nous lançons aujourd'hui, montre qu'il faut réformer le système fiscal, il faut qu'il y ait un engagement du gouvernement. Ce n'est pas uniquement la ministre de l'Éducation ou le ministre de l'Enseignement supérieur.
Voilà, et effectivement, augmenter la fiscalité, c'est compliqué dans des économies qui sont essentiellement informelles.
C'est compliqué dans des économies qui sont essentiellement informelles, mais ce n'est pas impossible, puisqu'il y a des pays où les économies sont des économies informelles, mais il y a une part des multinationales, il y a les ressources naturelles qui sont exportées, il y a des pays qui ont alloué, et le cas du Ghana est un exemple, puisqu'on parle de l'Afrique, qui ont alloué une taxe, ils ont alloué une part d'une taxe à l'éducation. C'est le cas de l'Inde, c'est le cas du Nigeria, donc il y a des solutions qui sont possibles.
Ouais. Un message qui s'affiche sur mon écran d'un auditeur, Oumar, qui est en Jamena au Tchad et qui dit « Construire une école ne coûte pas plus cher que la voiture d'un ministre, alors pourquoi il n'y en a pas plus ?» Est-ce que c'est si simple?
Je pense qu'il ne faut pas tomber dans l'anecdotique. C'est certainement que la voiture d'un ministre peut être plus chère, mais je pense que la question est une question d'investissement durable dans le système éducatif. Construire les écoles, maintenir les infrastructures, investir dans le numérique pour permettre l'accès à l'éducation et trouver des solutions qui sont, on le sait très bien, c'est le futur, les solutions hybrides et réduire les classes qui sont submergées par le nombre d'élèves. Quand on a dans une classe 120 élèves, la qualité ne peut être que très faible.
Ouais. Et d'ici 2030, en Afrique, il faudra recruter 15 millions d'enseignants du primaire et du secondaire. Est-ce que le numérique peut remplacer les enseignants ou ça ne règle absolument pas cette question de recruter 15 millions d'enseignants supplémentaires? Je vous pose la question, Gaëlle Le Dréau, parce que certains imaginent beaucoup de choses possibles avec le numérique.
Non, je pense que imaginer ce mirage comme quoi le numérique remplacerait l'enseignant, ce n'est pas raisonnable. Je pense que vraiment le numérique vient accompagner l'enseignant. Il fait partie aujourd'hui des outils, en tout cas de la vie de l'enseignant. En tout cas, il doit en faire partie pour venir, il intègre sa façon de travailler, sa façon de produire des ressources, de les transmettre auprès des élèves. Mais je pense pas qu'il faille imaginer que ça puisse le remplacer. En revanche, ça questionne vraiment les pratiques d'enseignement, évidemment. Et c'est pour ça que l'accompagnement, la proximité qu'on doit mettre auprès des enseignants dans ce nouvel environnement-là est essentielle. Et puis également, peut-être pour rebondir, il y a un autre aspect sur le point de vue économique. Je pense que le numérique, c'est aussi une façon de générer une activité locale. C'est-à-dire qu'on voit bien que la question de la ressource est essentielle, et des contenus de formation, ils doivent être vraiment en prise avec les réalités. Et ça veut dire que les mieux placés pour produire de la ressource pour aller auprès des élèves, pour produire des contenus de formation qui servent le système éducatif local, ce sont les acteurs locaux. Donc il y a à mettre en place
les enseignants, les inspecteurs, etc.
Exactement. C'est là où ça doit se produire. Donc il y a peut-être aussi des circuits de production de contenu, de ressources éducatives à mettre en place, à imaginer et en tout cas à promouvoir localement. Et là encore, juste à titre d'exemple, encore une fois sur des choses qui sont en phase de démarrage. Au Tchad, puisqu'on est quand même en avance sur la production de contenu, plus de 4000 ressources sont aujourd'hui accessibles sur la plateforme tchadienne. Donc elles sont accessibles sur tout le territoire à partir du moment où on a Internet, effectivement. Donc c'est encore ce modulo qui faut apparaître.
Mais ça veut dire que le savoir est là sur Internet. Encore faut-il que les enseignants soient au courant. C'est ce que vous faites aujourd'hui pour le Tchad. Et il faut qu'effectivement ils s'en servent. Il faut qu'ils l'utilisent maintenant.
Il faut s'approprier ça. Il faut s'approprier ça et je pense qu'il faut continuer aussi. C'est une matière qu'il faut travailler toujours. C'est ça qui est intéressant avec le numérique. Et localement, effectivement, on a mis en place, on a travaillé avec, comment M. Codessal mentionnait, une petite entreprise tchadienne, le cabinet Cetus, qui travaille pour effectivement accompagner la production, faire en sorte qu'il y ait de la qualité sur cette production.
Vous allez ensuite avoir des retours des enseignants qui vont dire ça, c'est pas pratique, ça, on n'arrive pas bien à l'utiliser, ça marche pas ou pas. Est-ce que vous allez faire des évaluations?
Bien sûr, ça fait partie effectivement du travail qu'on souhaite mener, c'est voir là où ça achoppe, qu'est-ce qui ne va pas, est-ce que certains contenus ne correspondent pas à des attentes, les difficultés encore une fois d'accès, d'utilisation, etc. C'est essentiel.
Borène Chakroun, on arrive bientôt au terme de cette émission, je voudrais quand même qu'on dise un mot sur le secteur de l'éducation privée, notamment sur le continent africain, qui est un secteur en extraordinaire croissance depuis longtemps déjà. C'est vrai que pendant la pandémie, on a vu les limites de l'école privée qui menaçaient de mettre chacune la clé sous la porte, parce que comme il n'y avait plus d'élèves, il n'y avait plus de rentrée d'argent, et que donc les enseignants n'étaient plus payés, et que donc il n'y avait plus rien. En Côte d'Ivoire et dans de nombreux pays d'ailleurs, l'État a dû remettre de l'argent sur la table pour que ces écoles ne ferment pas. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est une des solutions aussi pour répondre à la croissance démographique ou pas ?
Tout d'abord, il faut rappeler que l'éducation est un bien public. Et le droit à l'éducation est un droit universel. Donc, c'est important de rappeler. Le deuxième point, c'est que le secteur privé n'est pas homogène. Il y a des écoles privées, on va les appeler à visée commerciale. Il y a des écoles privées qui sont des écoles religieuses. Il y a des écoles privées communautaires. Donc, on ne peut pas mettre toutes les écoles dans le même paquet. Le deuxième point qui me paraît important, c'est la question de la régulation et de la qualité. Il peut y avoir des opérateurs privés dans un système, et d'ailleurs c'est le cas presque partout dans le monde, mais quand il y a également des normes qualité, par rapport à l'ouverture d'écoles privées, par rapport à la qualité de l'enseignement et par rapport à l'évaluation. Donc il y a des dimensions qui sont importantes. Maintenant, le problème qui se pose, c'est cet déséquilibre dans certains pays entre le secteur public et le secteur privé. Nous, au niveau de l'UNESCO, nous souhaitons qu'il y ait tout d'abord une stratégie nationale qui définit le positionnement des acteurs et le rôle de chaque acteur dans ce contexte. L'État joue le rôle de garant de la qualité et le garant de l'accès à l'éducation. Je pense qu'il faut prendre de cette manière plutôt que de dire est-ce qu'on a besoin d'un secteur privé ? Le secteur privé existe. Il ne s'agit plus de le fermer, il s'agit de le réguler, d'en assurer la qualité, de le mettre à niveau et de faire de telle sorte que ça soit une part dans une stratégie nationale et non pas un pan du système éducatif qui n'est même pas contrôlé.
Et surtout de faire en sorte que les élèves qui sont condamnés à rester à l'école publique faute de moyens pour payer l'école privée ne soient pas condamnés à ne pas réussir dans la vie.
Absolument.
Parce que c'est quand même un sentiment aussi qu'on a dans les familles. Je ne peux pas mettre mon enfant dans une école privée, ben finalement il n'a pas d'avenir. Mais pourtant Khadija, 18 ans, nous a quand même envoyé ce message de Touba au Sénégal. Elle dit qu'elle a commencé l'école dans un abri provisoire, dans une classe payotte. Et elle nous envoie ce message-là.
Absolument. Et le privé, c'est aussi les études ou les cours particuliers. Donc le problème, il est plus large. On peut être dans une école publique et faire des cours particuliers. Donc je pense que c'est là où la question de l'équité et de l'inclusion est importante. Et certains pays le font. Je prends l'exemple de Madagascar, où il y a des aides au niveau communautaire et au niveau des familles conditionné à l'accès à l'école publique. Donc il y a des possibilités d'orienter vers l'école publique. C'est le cas du Brésil également avec le ce qu'ils appellent la famille, le cash transfert aux familles.
Eh bien, merci à tous. Boren Chakroun, directeur division des politiques et systèmes d'apprentissage tout au long de la vie à l'UNESCO. Merci à vous, Gaël Le Dréau, délégué à l'international du réseau Canopée. J'en profite, puisqu'on parle éducation, je vous rappelle aussi que pour les entrepreneurs du numérique, je voudrais vous redonner le rappel du concours Challenge App Afrique qui est ouvert. C'est le 6e Challenge App Afrique RFI France 24. Et cette année, justement, il est dédié à l'innovation dans l'éducation des enfants. Alors ça peut être des applications numériques, web, pour compléter ce que font les enfants à l'école, ou bien pour aider des enfants qui ne sont pas scolarisés ou qui sont partiellement scolarisés. Comment participer à ce concours si vous êtes un entrepreneur du numérique, si vous êtes porteur d'un projet d'application numérique pour favoriser l'apprentissage des enfants? Eh bien, vous participez à la compétition en allant tout simplement sur appafrique.rfi.fr. On va remettre le lien sur notre page 7 milliards de voisins sur le site rfi.fr. Je vous donne les dates parce que c'est très très bientôt la clôture du concours. L'appel à candidature est ouvert jusqu'au 8 décembre prochain et le lauréat bénéficiera d'un financement pour développer son projet. Alors vite, à vos dossiers. Surtout, soignez bien la présentation pour être sélectionné parmi les 10 finalistes. Travaillez en équipe et vous avez donc jusqu'au 8 décembre prochain. C'est dans moins d'un mois, je vous le rappelle. Merci à toute l'équipe. Juliette Brault, Delphine de Dianouz, David Brocouet, Didier Cherouz qui était à réaliser l'émission. Et puis toutes nos émissions, bien sûr, sont disponibles en podcast pour les écouter à l'heure qui vous convient, avec ou sans connexion Internet, une fois qu'elles sont téléchargées dans votre smartphone. Merci à vous tous. Dans quelques instants, ce sera le journal sur RFI.
De voisins, c'est fini.